Santé Beaujolais d'Ombe.
L'émission de santé du territoire.
100.9 Calade.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous revoir. Une heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais d'Ombe pour le territoire. Vous pouvez retrouver l'émission Santé Beaujolais d'Ombe sur le site internet de Radio Calade, sur le site internet de la CPTS Beaujolais d'Ombe et sur les réseaux sociaux. Cette émission est préparée, comme d'habitude, par l'équipe radiophonique de la Communauté professionnelle territoriale de santé Beaujolais d'Ombe et animée aujourd'hui par Alexandra.
Bonjour.
Ça va ?
C'est bien Alexandra.
Ah non, mais j'ai pas fait d'erreur.
Non, j'ai cru. J'ai cru que tu hésitais, mais non, c'est bon.
Non, j'ai pas hésité. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
Pas trop chaud ?
Ça va.
J'ai l'impression de me répéter ce soir.
Plus ça va et plus ça vient, quoi.
Marie ?
Bonjour Ludovic.
Ça va toujours ?
Ça va toujours.
Bon, parfait. Et sur la partie technique, Amaury. Bonjour. Donc on a préparé cette émission et en préparant cette émission, on s'est dit que c'était intéressant de faire un focus sur le pharmacien. Alors c'est vrai que le rôle du pharmacien évolue depuis quelques mois, voire quelques années, qu'il existe. C'est vrai que le domaine du pharmacien, c'est l'hôpital, ce sont les laboratoires, c'est donc en fait beaucoup d'exercices différenciés. Et en fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc, c'est le pharmacien d'officine, de ville. Et donc, pour en parler, nous allons recevoir Nicolas Marchand.
Bonjour à tous, merci de votre invitation.
Et donc, avec vous, on va découvrir quel est un peu votre rôle dans les multiples tâches que maintenant vous pouvez avoir. Donc, on va en citer quelques-unes, hein, tout ce qui est prévention, vaccination, recommandation. Mais en fait, vous êtes toujours quand même aussi un rôle dévolu de monsieur médicament.
Heureusement, oui, c'est notre rôle de base et notre cœur de métier. Et on continue de l'effectuer tous les jours. Moi, je suis très heureux de parler de ce qu'est réellement la journée d'un pharmacien de ville, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on n'imagine pas.
Alors justement, donc c'est bien, vous faites un super enchaînement et je vous remercie.
Merci.
Justement, ça va être notre premier sujet sur vos missions, ce qui fait votre quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait votre quotidien ?
Alors, le quotidien de l'équipe officinale, parce qu'en fait, on n'est pas dans un exercice isolé. Généralement, une officine, c'est au minimum 6-7 personnes, parfois beaucoup plus. Et donc, il s'agit justement d'arriver à tous s'organiser. Parmi les métiers que les patients connaissent bien, il y a évidemment celui du pharmacien. Donc, pharmacien titulaire, celui qui tient quelque part l'officine, et ses assistants. Et puis les préparatrices qui sont aussi évidemment souvent au comptoir à délivrer les ordonnances. Mais on peut avoir plein d'autres métiers qui sont plutôt dans le back-office, donc à l'arrière de la pharmacie, et qui participent aussi à la bonne organisation de cette structure, de cette entreprise qu'est la pharmacie de ville.
Alors qu'est-ce qui fait votre quotidien finalement ?
Donc il y a déjà tout un travail de réception de commandes et de passage de commandes. À l'heure où aujourd'hui on a beaucoup de ruptures de médicaments, c'est un travail qui est assez engageant, hein, qui nous prend généralement dès l'ouverture de la pharmacie et toute la journée pour essayer d'arriver à obtenir des médicaments pour nos patients. Évidemment leur réception à l'arrière et puis leur rangement. Soit uniquement par l'humain, soit parfois même par l'aide d'un robot, ça peut arriver. Un gros travail en tout cas sur la logistique.
Surtout qu'en plus, il est vrai que vous êtes là pour la patientèle de ville, mais je crois que certaines officines gèrent aussi certains EHPAD ou certains... Enfin voilà, vous n'intervenez pas que pour les patients de ville, finalement.
Oui, ça fait partie des choses qu'on peut ne pas voir quand on vient récupérer ces médicaments au comptoir d'une pharmacie. Mais il peut y avoir en effet une grosse activité liée à la délivrance des médicaments pour les EHPAD.
Ok. Et donc, une fois que vous avez réceptionné ces médicaments, donc on vous comprend bien, vous ne recevez pas tout.
Donc ça veut actuellement,
dire...
non.
Voilà, donc ça veut dire que vous faites des recherches pour trouver le restant.
Oui, il y a une grande partie de notre temps aujourd'hui. Dès qu'on a un instant de libre, on va essayer d'aller récupérer auprès de nos grossistes des médicaments qui auraient pu être livrés chez eux. C'est un vrai travail qui est très chronophage. Et comme nous sommes aussi dans nos professions, dans le service à nos patients, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour nos patients et à trouver ces médicaments.
Donc vous interrogez les grossistes différents pour chercher les médicaments qui vous manquent.
Absolument, et c'est presque en permanence. C'est-à-dire que toute la journée, on va à tour de rôle lancer des demandes à nos grossistes pour essayer d'arriver à récupérer ces médicaments qui sont en tension actuellement. Ouais.
Et toujours avec le sourire.
Parce Bien
qu'il faut sûr. Il faut quand même le préciser, c'est que vous êtes quand même le premier maillon finalement de la santé. Parce que vous êtes en accès libre et donc toujours disponible, vous connaissez tout par cœur.
tout presque. Mais non, par mais rapport voilà. au sourire, en tout cas, on essaye de le garder. On peste quand on est à l'arrière, et puis quand on se retrouve face au patient, on essaye en effet de garder le sourire.
Et c'est vrai que c'est important parce que encore une fois, c'est ce qu'attend le patient, c'est aussi d'être rassuré.
Oui, bien sûr.
Et donc, une fois que vous avez vos médicaments, votre rôle, c'est de délivrer les bons médicaments, mais pas seulement. Il faut aussi parfois récupérer certaines erreurs ou peut-être regarder s'il n'y a pas de contre-indication entre des traitements qui pourraient être prescrits par différents médecins pour une même personne, non ?
Bien sûr, l'analyse de l'ordonnance et l'analyse du dossier du patient, là, c'est ce qui va vraiment occuper réellement toute notre journée. C'est notre cœur de métier, comme je disais tout à l'heure. C'est une tâche donc, qui est effectuée à la fois par les pharmaciens et par les préparateurs, préparatrices, et qui nécessite aussi la mise en place de protocoles et d'une politique aussi de qualité, hein, de contrôle qualité sur nos délivrances, donc généralement avec une double vérification de ce qui a été délivré aux patients.
Alors, ça veut dire que c'est important peut-être d'aller avec, quand on a différentes ordonnances par différents spécialistes, par exemple, d'aller peut-être essayer d'aller tout le temps dans la même pharmacie aussi, parce que si un patient vient avec une ordonnance de son cardiologue dans une pharmacie et puis dans une autre pharmacie avec une ordonnance de son rhumatologue, j'en sais rien, il peut y avoir des contre-indications mais qui ne seront pas visibles ou est-ce que vous êtes obligé à chaque fois de demander si le patient prend des traitements ?
Alors déjà, il faut savoir que pour les patients, il y a une liberté de choix, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcés d'aller dans la même officine.
Bien sûr.
Le fait de fréquenter la même officine, en effet, permet d'être rassuré sur le fait que le pharmacien dispose de l'ensemble des informations. Il y a aussi tous les outils aujourd'hui qui sont des mises en commun sur des plateformes, le dossier pharmaceutique, le DMP, qui nous permettent d'aller vérifier ce qui a pu être délivré dans d'autres officines. Mais oui, notre but va être de récolter le plus d'informations possible pour éviter ces risques-là, puisque assez régulièrement, en fait, les patients consultent plusieurs médecins sans qu'eux-mêmes ne soient forcément informés que le patient voit d'autres collègues. Mmh. Ça arrive.
Le DMP, comme vous disiez, il est disponible pour tous les patients ou pour des patients spécifiques ?
Alors, sur le dossier pharmaceutique, il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui qui concernent l'ensemble des patients. On peut l'ouvrir en ligne.
D'accord.
C'est mon espace santé.
Donc chacun, individuellement, peut l'ouvrir en ligne.
Absolument. Les professionnels de santé peuvent l'ouvrir pour leurs patients, mais il est conseillé aujourd'hui que les patients l'ouvrent eux-mêmes.
Et donc, si on continue le flot de la journée, est-ce qu'il y a d'autres missions ?
Alors oui, bien sûr. On va avoir ensuite les missions qui vont nous permettre de quitter cet aspect ordonnance et comptoir et qui rejoignent l'ensemble des nouvelles missions qui nous ont été données par les autorités de santé et qui sont, elles, souvent bien visibles par les patients puisqu'elles vont occuper une grosse partie de nos journées, surtout pour les pharmaciens, puisque ces nouvelles missions-là, ça j'insiste dessus, sont des missions qui ne sont pas accessibles aux préparateurs, préparatrices en pharmacie. On pourrait dire malheureusement, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, dans l'organisation de la journée d'un pharmacien, il y a aussi une grande partie du temps qui va être consacrée aux nouvelles missions dont on peut parler.
Juste, je m'excuse, je reviens. Oui. Vous parlez de nouvelles missions, c'est-à-dire qu'on parle de missions d'origine, c'est ça ? C'est les missions qui étaient avant uniquement pour les pharmaciens et seulement ceux-là. Et maintenant, il y a d'autres missions qui vous ont été demandées.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le pharmacien était, jusqu'il y a quelques années, là précisément pour traiter l'ordonnance, délivrer et vérifier les interactions, comme on vient d'en parler. Ces missions-là, aujourd'hui, sont dépassées. Et on va intervenir dans beaucoup d'autres domaines que simplement le domaine de la prescription de l'ordonnance.
D'accord. Et pour quelles raisons est-ce que vous avez eu d'autres, de nouvelles missions ?
Alors ces missions ont été confiées certainement par un effet de ruissellement de tâches qui fait qu'aujourd'hui certaines missions qui étaient autrefois attribuées exclusivement aux infirmiers, aux médecins, ont été aussi élargies au domaine des pharmaciens. Alors il y a quand même une véritable raison de santé publique, hein. On peut prendre l'exemple de la vaccination par exemple. C'est vrai que la couverture vaccinale était mauvaise. Les autorités de santé ont imaginé que permettre aux pharmaciens de pratiquer la vaccination pourrait permettre, en termes de santé publique, un vrai gain et d'augmenter la couverture vaccinale de la population française. Ça, c'est une chose. Et puis l'autre raison, c'est aussi le manque de temps de certains professionnels d'effectuer certaines tâches et donc la possibilité pour les pharmaciens d'effectuer ces tâches-là. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais certains tests, par exemple, qui sont effectués aujourd'hui à l'officine.
Je crois qu'on pourra le garder dans notre équipe parce qu'en fait, il fait très bien les transitions, ce monsieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est top. Ce qui me permet effectivement d'annoncer après la pause musicale, puisqu'on m'a demandé d'anticiper la pause musicale. Donc, je m'applique. Hein, vous noterez tous. Merci. Donc, après la pause musicale, on parlera effectivement vaccination.
Sentez vos gelées d'ombre.
Flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff without a blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
bien sur Radio Calade et vous venez d'écouter
Narcotique de Liquido.
Donc on avait commencé à parler vaccination. La vaccination est encore une activité, j'imagine, qui prend du temps dans les officines actuellement.
Oui, de plus en plus. La vaccination, elle a commencé dans les officines avec la vaccination antigrippale. C'est la première mission de vaccination qu'on nous a confiée.
Qui remonte à quand, simplement?
C'est une bonne question. C'est avant COVID.
D'accord, ok.
Avant Covid, parce qu'en fait...
2018, peut-être 2017, peut-être quelque chose comme ça.
Oui, je pense que ça doit correspondre à ça, puisqu'on était en région test, en plus, dans le Rhône, puis dans l'Ain. Ensuite.
Il me cherche depuis.
J'ai entendu. Je n'ai pas relevé. Mais voilà, donc c'était en effet, ça devait être sur ces dates-là, avec les régions test, donc qui étaient en plus celles du Rhône puis de l'Ain. Et puis évidemment, après, avec la vaccination Covid, les choses se sont accélérées. Je pense que les pharmaciens ont montré leur implication sur des possibilités de vaccination de masse dans les officines et leur engagement. Et donc, évidemment, tout ça a entraîné la possibilité aujourd'hui de vacciner sur des pathologies encore plus importantes. La première évolution a été de pouvoir faire les rappels de vaccination de l'adulte, donc la vaccination diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. On peut la réaliser aussi maintenant en pharmacie chez l'enfant à partir de 11 ans.
Comme les infirmières libérales.
Comme les infirmières, absolument, absolument.
Non, mais il faut le dire.
Mais absolument, mais... oui. Il est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas faire intervenir des infirmières dans nos structures. C'est absolument interdit par la loi, mais ça aurait pu être une possibilité aussi de partage qui aurait pu être intéressante dans l'interprofessionnalité. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas le cas. Et donc, aujourd'hui, la vaccination, en effet, nous prend un temps assez important et nous oblige à réorganiser aussi un peu nos locaux.
Alors, justement, parlons-en. C'était ce que j'étais en train de penser. Vous avez des choses obligatoires, j'imagine, à mettre en place dans l'officine pour faire de la vaccination. Il vous faut un endroit dédié. Comment ça se passe?
Oui, alors déjà la formation des équipes.
Ça, c'est clair.
À noter d'ailleurs que uniquement les pharmaciens peuvent vacciner. Les préparateurs, préparatrices peuvent pratiquer la vaccination grippe, Covid. C'est tout. Sur les autres vaccinations, c'est les pharmaciens seulement qui interviennent. Et donc, oui, une organisation, donc formation, comme je disais, les locaux. Donc pour les locaux, on a l'ARS qui nous fournit une liste de prérequis pour pouvoir pratiquer la vaccination dans nos locaux. Des choses qui semblent évidentes, un point d'eau, évidemment la bonne tenue de l'hygiène du local, par exemple. Et puis après, dans l'organisation aussi, moi je parlais plus de l'organisation dans nos équipes. Il faut bien voir que pour la vaccination Covid, nous sommes toujours sur des doses à 6, enfin des flacons, à 6 doses. Donc pour éviter au maximum le gâchis, on va devoir organiser dans nos officines des rendez-vous, donc sous forme d'agenda.
Des temps dédiés.
Oui, okay. Tout à fait. Oui, oui.
Et trouver 6 personnes qui viennent précisément.
Voilà, on essaye.
Pour pouvoir pas avoir de gâchis de doses, c'est pas évident.
Oui, tout à fait. Les autres vaccinations, alors, selon les officines, c'est vrai que les organisations peuvent être différentes. On ne va pas généraliser. Vous avez même, je crois, des officines qui continuent de faire des vaccinations Covid sans rendez-vous. Ça existe. Pour les autres vaccinations, pour ma part, je les pratique sans rendez-vous. Mais pareil, ça nécessite qu'il y ait un pharmacien disponible et formé. Donc, moi, j'invite les patients à se mettre en contact avec leur officine de proximité pour savoir comment exactement ça se déroule près de chez eux. On n'a pas tous la même organisation.
C'est gratuit?
Alors, ce n'est pas gratuit, c'est remboursé par la Sécu.
C'est important aussi de le justifier. Absolument. Ma question était un peu... Désolé.
Une perche tendue.
Oui, mais c'est ça, c'était sous forme de perche tendue.
C'est pris en charge par la Sécu et ça ne concerne pas les vaccinations des voyageurs qui ne sont pas pratiquées normalement en officine, qui ne doivent pas être pratiquées en officine. Et évidemment, c'est remboursé par la Sécurité sociale, aussi bien le vaccin lui-même que... l'acte, le geste vaccinal.
Quand vous parlez voyageurs, ça veut dire quoi?
On parle des vaccinations avant de partir à l'étranger.
Comme la fièvre jaune, par exemple.
Alors, qui est même pas celle-ci qui est effectuée même dans certains centres. Mais je pense par exemple à l'hépatite A, qui est un vaccin qu'on peut récupérer en officine, mais qui, dans le cadre du voyage, n'est pas pratiqué en officine.
D'accord, je ne l'avais pas compris comme ça. Moi, sur mon lieu de vacances, je peux très bien aller me faire vacciner.
Oui, c'était tout dans ce sens-là, en fait. En tant que voyageur, vous pouvez vous faire vacciner sur votre lieu de vacances.
Et je précise qu'il est important d'amener son carnet de vaccination.
Tout à fait.
Voilà. Oui, moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'il faut une prescription médicale, du coup, pour certains vaccins?
Alors, même chose, les choses ont beaucoup évolué ces derniers mois. Aujourd'hui, le pharmacien, s'il a passé la formation pour, peut être aussi prescripteur du vaccin. La prescription par le médecin n'est plus obligatoire. Après, mon point de vue est qu'il est toujours important de passer par son médecin traitant pour un suivi général et qui me semble beaucoup plus logique qu'il y ait ce passage chez le médecin, cette consultation et puis la vaccination chez nous après éventuellement. Mais pour des personnes qui n'auraient pas de médecin traitant, on a la possibilité, sur présentation du carnet de vaccination, de faire les rappels sans passer par la case médecin. C'est une possibilité. Oui.
Je regarde Alexandra, infirmière, et vous, pharmacien. Le carnet de vaccination, il est encore amené ?
Oui, parfois on a des carnets très jolis avec des couvertures brodées.
Oui, des carnets de santé qui datent des années 80, des fois, avec beaucoup de scotch pour tenir la couverture, mais qui arrivent. Mais on en a quand même beaucoup qui viennent sans carnet de santé.
Alors, comment ça se passe dans ces cas-là ?
Alors, difficile. Nous, on prend la position de noter sur l'ordonnance qui nous a été fournie, parce que le patient, en général, vient avec une ordonnance du médecin pour avoir récupéré son vaccin à la pharmacie. Et on prend l'option de coller ce qu'on aurait dû mettre en fait, sur le carnet de vaccination. On le note sur l'ordonnance, parce que comme ça, ils gardent la trace de ce qu'ils ont eu, comme lot de vaccin et comme vaccin et la date, etc. Donc on prend cette option-là, parce qu'on n'a pas forcément de carnet de vaccination avec nous tout le temps. On en a quelques-uns de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais vous, je pense que vous en avez peut-être à l'officine.
Je crois que ce qui est important, c'est vraiment la traçabilité. Et il faut que si le patient n'a aucun document, qu'il puisse montrer le document ensuite à son médecin. Alors maintenant, on va verser aussi sur les dossiers dématérialisés des patients les vaccinations qui ont été faites. Ça reste encore très complexe et c'est un peu ennuyeux parce que les différents professionnels de santé qui interviennent dans le cadre de la vaccination... Donc on est au moins 3, voire 4, si on inclut aussi les sages-femmes qui peuvent le faire. Ça serait bien qu'on ait une plateforme commune sur laquelle on pourrait suivre correctement la façon dont la personne est vaccinée. C'est en train de venir, mais ce n'est pas tout à fait encore au point.
Mis à part les vaccins, je crois que vous avez d'autres missions, d'autres actions de prévention à l'officine ?
Oui, on a des actions de dépistage dans deux cas particuliers, en tout cas, qui sont le dépistage du diabète. On pourrait indiquer aussi la prise de tension qu'on réalise régulièrement dans l'officine, alors qui n'est pas forcément une forme de dépistage, mais quoique. En tout cas, le dépistage du diabète, lui, c'est quelque chose c'est une activité qui se fait très régulièrement. Pareil, selon les officines, soit sans rendez-vous, soit sur rendez-vous, soit parfois lors de campagnes de dépistage sur des mois de temps fort, on va dire. Donc, ces missions de dépistage, elles nous ont aussi été confiées, en effet, par les autorités de santé.
Alors, j'en profite d'ailleurs pour parler un peu de la CPTS et de ses actions, puisque effectivement au niveau de ce parcours, du parcours diabète, il y a donc on encourage les pharmaciens effectivement à participer à cette initiative que vous faites évidemment spontanément, mais on va vous aider puisqu'en fait vous nous transmettez les résultats positifs. Et ces résultats positifs, donc on va pouvoir accompagner le patient pour aller un peu plus loin dans sa démarche, donc en passant par le laboratoire médical, puis après par son médecin traitant. Et s'il n'a pas de médecin traitant Et si les analyses sont anormales et hautes, à ce moment-là, on va lui trouver un médecin traitant pour qu'il puisse régulariser sa situation du diabète. Ça, c'est vraiment une initiative du territoire. Vous êtes assez nombreux. Enfin, il y a quand même 17, un peu plus de 17 officines qui participent à cet élan. Donc, c'est bien. Ça a été un peu compliqué parce qu'effectivement, on a des protocoles qui sont un peu stricts. On est obligé de suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé. On a appris ce matin justement qu'il y avait une simplification. Donc on va bientôt recommuniquer à votre niveau pour dire que finalement, ce qu'on avait mis en place va pouvoir être bien simplifié. Et donc ça va permettre de gagner du temps sur vous, sur votre gestion de ce parcours qui vous prenait du temps puisqu'il fallait remplir un questionnaire, le renvoyer. Enfin, c'était quand même très compliqué, c'était très chronophage pour vous. Donc ceci en fait sera simplifié, ce qui permettra donc bien sûr aux usagers, à votre clientèle de pouvoir bénéficier simplement de ce parcours et vous de perdre moins de temps. Donc c'était à noter.
Et avec vraiment un point positif sur la prise en charge de nos patients, quand on a une prise en charge comme ça globale, oui. Il ne s'agit pas seulement d'un test qu'on va faire et on va lui dire allez voir votre généraliste. Là, il y a une prise en charge globale.
Il y a un accompagnement. Voilà, ouais. C'est vraiment un accompagnement. C'est-à-dire qu'avec évidemment avec l'autorisation du patient, on obtient son numéro de téléphone hein, puisque c'est vous pharmacien qui vous occupez de cette étape-là. Et nous, donc, on va vraiment accompagner dans cette démarche en expliquant pourquoi on le fait, quoi. Donc, et l'accompagnement permet aussi une prise de conscience parce que le patient n'a parfois pas conscience de ce qui est en train de se passer.
Et il ne faut pas passer à côté, il faut aller vite. C'est-à-dire que quand le patient prend conscience, il ne faut pas le laisser repartir chez lui.
Exact, il ne faut pas qu'il y ait de rupture, ce qu'on pourrait dire de rupture.
On le séquestre à la pharmacie.
On le séquestre à la pharmacie.
Et vous parliez du coup de dépistage de maladies comme le diabète. Et vous faites des dépistages aussi sur des pathologies plus aiguës.
Oui. Alors juste une dernière chose dont je voulais parler, c'était aussi la remise de tests pour le dépistage du cancer colorectal. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important.
Il est très bien, hein.
Oui.
Ah ouais. J'ai bossé un peu.
Ça sent.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, il n'est pas aisé de trouver ces tests de dépistage, quoique on peut les avoir par le médecin traitant et même par demande en ligne. Mais c'est vrai que souvent, c'est assez simple de venir chez le pharmacien pour l'obtenir. Alors, il y a des conditions pour qu'on le remette au patient. Hein. Ce n'est pas parce qu'il nous le demande qu'on va lui donner. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on va vérifier en même temps l'état général de santé au niveau colorectal. Et puis après, donc, il peut récupérer son test et l'effectuer au domicile.
Pas, juste comme ça, à partir de quel âge?
Très bonne question. La colle.
Bon, on cherchera. Alors.
C'est dans un podcast que nous avons fait.
Il faudra écouter le podcast. Normalement, au comptoir, je dois le savoir.
C'est 50 ans, je crois, de mémoire.
Il me semble que c'est 50 ans.
Alors, je crois que c'est révolu, en fait, parce qu'il y a une histoire d'années révolues. Voilà. Et puis surtout, ça n'est pas applicable à des personnes qui ont des antécédents de maladies, dont cancer colorectal, y compris des antécédents familiaux, puisque eux doivent passer par le médecin.
Après l'interlude, c'est bien dit, hein, pas médical, mais musical.
Colorectal, non,
musical. Non, monsieur, pas juste là.
Un relais, s'il vous plaît.
Musical. Donc, on va aborder un sujet sur l'accompagnement thérapeutique qui fait partie aussi de vos missions. Et donc, on va voir ça tout de suite après ce petit temps de pause. Merci.
Santé Beaujolais d'Ombes. Sweet.
to let it go. But if you never try, you'll never know. Just watch your world. Lights will
Vous êtes sur Radio Calade 100.9 et vous venez d'écouter
Fix You de Coldplay.
Alors avant d'aller dans l'accompagnement thérapeutique, c'est vrai qu'il y avait un point important qu'on n'avait pas abordé, c'est toute la notion de détection, dépistage, comment on peut dire, les deux d'ailleurs, non, je sais pas.
Ouais, de test, test diagnostique.
Ah,
ouais. Donc les fameux TROD dont on parle parfois, qui veut dire donc test rapide d'orientation diagnostique. Et qui donc sont effectués à l'officine. Alors les tout premiers, ça a été les tests Covid. Et aujourd'hui, c'est élargi à beaucoup à d'autres pathologies qui vont concerner donc la grippe aussi, le VRS, le virus respiratoire syncytial, l'angine et les cystites. Donc ça, en effet, c'est réalisé aussi à l'officine.
Sur prescription du médecin ?
Alors ça peut être sur prescription et ça peut être sans. Aujourd'hui, par exemple, le test Covid peut être effectué sans prescription médicale et avec une prise en charge de la Sécurité sociale. Le test angine peut être réalisé aussi sans prescription après un questionnaire qu'on va adresser au patient pour voir s'il est éligible au test. Et même chose pour le test infection urinaire cystite, qui peut être effectué aussi sans besoin de prescription, mais avec un entretien préalable pour vérifier si la personne est éligible.
Et donc ça, ce sont des nouveautés, sauf les tests Covid, du coup, qui sont là depuis le Covid, pour le coup, mais le reste, c'est des nouveautés qui sont apparues au fur et à mesure.
Voilà, c'est ça, au fur et à mesure. Alors là, la volonté qui est exprimée, c'est celle de limiter l'antibiorésistance. Donc les tests, en particulier cystites angines, permettent d'orienter le diagnostic et de savoir si on traite avec un antibiotique ou pas.
Parce que ce n'est pas automatique.
Parce que ça n'est pas automatique, oui, comme le disait l'adage. C'est pourquoi on peut les réaliser aussi sans forcément la nécessité d'avoir la prescription médicale. Et c'est élargi encore plus aujourd'hui, puisque ces TROD, en particulier angine et infection urinaire, peuvent être suivis par la délivrance d'un antibiotique par le pharmacien.
Ça dépend des officines, j'imagine.
Alors voilà, c'est important, vous avez raison de le dire. Ça a été mis en place là, il y a quelques jours. Donc ne vous ruez pas dans vos officines, il y a une nécessité pour les équipes d'être formées. Ce qu'il faut voir hein, quand même, c'est que c'est une révolution pour l'officine, puisque c'est la première fois que l'on peut prescrire des médicaments. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas prescrire. Donc ça nécessite des modules de connaissances, hein, de mise à niveau, qui sont des formations qui durent au minimum 4 heures par pathologie et qui donc ne peuvent pas être mises en pratique.
Dans l'immédiat,
absolument.
Pas demain,
non, ça va commencer.
Ok.
Vos autres missions ?
Alors, les autres missions.
Il y en a d'autres encore.
Alors, justement, on était sur l'accompagnement thérapeutique. C'est quoi, finalement, l'accompagnement thérapeutique ? Quelle définition on peut donner ?
Alors, l'accompagnement thérapeutique, c'est une manière j'ai envie de dire, de donner la main à notre patient dans la multitude d'habitudes de santé qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'on va même dépasser la partie médicaments, on va parler des habitudes de vie aussi, on va parler de son environnement, et évidemment, tout ça avec aussi, en prenant soin de prendre en charge l'ensemble des ordonnances. Donc c'est ce qu'on appelle les entretiens pharmaceutiques. Il y en a plusieurs, à différents stades de la vie ou concernant différentes pathologies.
Par exemple ?
Donc les premiers qui ont été mis en place concernaient les anticoagulants, donc aussi bien ancienne génération que nouvelle génération. Pourquoi ? Parce qu'on remarquait qu'il y avait un problème dans l'observance, donc la façon dont le traitement était pris, et que très souvent, ça entraînait des hospitalisations. Donc là, il y avait une nécessité de remettre un petit peu à plat le traitement avec nos patients, de leur expliquer comment ça fonctionne, comment ils doivent le prendre, pour qu'on ait le moins d'effets indésirables ou de catastrophes possibles.
Et donc ça, c'est des conseils qui sont donnés directement au comptoir de l'officine. Comment ils se pratiquent ces entretiens ?
Même chose, hein, ça va beaucoup dépendre de l'organisation de l'officine. L'idée de départ, quand ça a été mis en place, c'était de le faire dans un espace de confidentialité, ce qui est toujours recommandé. Après, quand on a suffisamment de confidentialité sur les comptoirs, moi, il m'arrive de pratiquer les entretiens, surtout de suivi, hein, parce que en fait, c'est organisé sur un entretien initial et des entretiens de suivi. Donc l'entretien initial, il est important de le faire en effet à l'écart, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Ça peut prendre une vingtaine de minutes à peu près, hein, le temps d'aller sur tous les secteurs de vie qu'on nous demande de compiler. Et puis ensuite, les entretiens de suivi, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu à l'entretien, aux entretiens initiaux. Et ça peut être effectué au comptoir, oui. Aussi bien pour... donc on parlait des anticoagulants. Ça peut être l'asthme aussi, et depuis peu, la femme enceinte.
Et donc, c'est vous qui orientez le patient vers cet entretien. J'imagine que ce n'est pas le patient qui vous dit « c'est le moment de mon entretien ». Et du coup, c'est fait que par le pharmacien en plus. Donc, il faut qu'il y ait quand même une organisation assez stricte au sein de la pharmacie pour être...
Le premier rendez-vous, généralement, c'est un rendez-vous qui est programmé. Déjà parce qu'on a besoin, nous, d'avoir des documents qui doivent nous être remis par le patient en amont pour pouvoir travailler dessus et lui donner un compte-rendu. Donc ça, c'est programmé. Et puis, par contre, les entretiens de suivi peuvent être faits au moment d'un renouvellement de l'ordonnance. C'est tout à fait possible, mais uniquement par le pharmacien, en effet. Dans l'équipe officinale, c'est le seul qui peut les faire.
Ces entretiens, par exemple pour les femmes enceintes, ça ne va pas remplacer une visite chez la sage-femme, par exemple ?
Pas du tout. Ça ne doit pas du tout être vu comme ça. On va avoir, pour moi, c'est complémentaire. D'où l'intérêt à nouveau de l'interprofessionnalité, c'est-à-dire de pouvoir partager nos informations. Il y a certainement des choses qu'on va dire à son pharmacien qu'on ne va pas dire à sa sage-femme et inversement. Je pense beaucoup par rapport à la grossesse aux compléments alimentaires. Même si les sages-femmes sont très informées là-dessus, il arrive que des femmes enceintes prennent des compléments alimentaires sans en informer leur sage-femme. Et nous, dans cet entretien, il va être très intéressant de vérifier que ces compléments soient adaptés et de faire un retour à la sage-femme par rapport à la prescription qu'elle pourrait avoir de l'autre côté. Donc voilà ce genre d'interaction qu'on peut avoir avec les femmes enceintes. Et ça ne remplace pas, je vous confirme, la sage-femme. On n'est pas du tout là pour ça.
Quand il y a des retours avec les professionnels de santé, j'imagine que c'est sur des plateformes sécurisées.
Toujours.
Hein, ça vaut le coup aussi de le redire aux usagers et à nos auditeurs que en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important, que c'est crypté, que tout est bien codifié et que cette information est transmise vraiment de façon sûre.
Tout ce dont on a parlé depuis le départ, hein, sur la transmission aussi bien des résultats de tests, de ces entretiens pharmaceutiques, tout ça est réalisé sur des messageries sécurisées qui préservent absolument les données du patient.
Merci. Et donc, on va écouter notre
troisième.
Ah,
pause musicale. Oui, troisième.
D'accord, ok. Bon, bah, troisième pause musicale.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter
Somebody Told Me de The Killers.
Alors avant d'aller plus loin, il serait peut-être intéressant de revenir sur la cause des ruptures de médicaments.
Oui, c'est un sujet d'actualité. Il y a deux causes principales sur ces ruptures. La première, c'est que la production mondiale aujourd'hui ne suit pas la demande mondiale. Donc il y a un vrai déséquilibre là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne produit plus assez pour répondre aux demandes des pays. Il y a beaucoup de pays, c'est vrai, en développement qui aujourd'hui ont accès aux médicaments. Ça n'était pas forcément le cas avant. Et donc cette demande mondiale est croissante et la production ne l'est pas.
Et la production se fait à l'étranger aussi pour beaucoup ?
Alors la production des, il faut distinguer la production des molécules de la production de la gélule ou du comprimé. Ouais. La production des molécules se fait exclusivement à l'étranger. Aujourd'hui, vous avez en gros 3 sites de production mondiaux de molécules que sont la Chine, l'Inde et les États-Unis. Ailleurs, on ne produit pas de molécules. C'est de la chimie très lourde. Donc c'est assez complexe à mettre en œuvre. Et puis dans ces 3 pays, il y a quand même historiquement une vraie, on va dire tradition, en tout cas une vraie expertise sur la production de ces molécules. Et après il y a ce qu'on appelle le façonnage, c'est-à-dire la mise en comprimé, la mise en gélule, etc., qui elle est réalisée par contre à peu près partout dans le monde, y compris en France bien sûr. Alors il paraît qu'il y a un paracétamol produit pas très loin de Lyon d'ailleurs. J'ai entendu parler de ça, mais j'aimerais savoir si la molécule paracétamol est réellement synthétisée dans la région. Je ne pense pas, parce que le paracétamol, c'est principalement l'Inde, en fait, hein, aujourd'hui.
Donc ça, c'est la première raison. Il y en a une deuxième qui...
La deuxième raison, c'est le marché, hein, qui est un marché mondialisé, le médicament. Et donc, quelque part, celui qui achète le mieux sera livré le mieux en premier et le plus. Il faut bien comprendre aujourd'hui que le prix du médicament en France est extrêmement bas, grâce ou à cause, après chacun voit comme il veut, de la sécurité sociale, hein, qui permet une maîtrise des prix. Mais aujourd'hui, c'est pénalisant parce que ces prix sont tellement bas justement qu'on a du mal à acheter sur le marché mondial. Donc là, il y a une vraie question à se poser sur savoir ce qu'on veut faire. Donc il y a évidemment plusieurs solutions, hein, le fait de réindustrialiser la France, de remettre en production en France, mais là on parle de solutions sur 5 à 10 ans, d'augmenter les prix des médicaments, mais qu'en est-il dans ce cas-là du déficit de la sécurité sociale ? Donc voilà, chaque solution a son lot de problématiques aussi.
D'accord, bah ça nous éclaire déjà un petit peu plus là-dessus. Et moi, j'avais une question aussi par rapport à... Enfin, voilà, on a beaucoup discuté de la pharmacie, mais finalement, de tous les métiers et tous les professionnels de santé qui peuvent graviter autour de l'officine et autour du patient. Finalement, votre rôle, c'est aussi de faire du lien avec les professionnels de santé qui sont autour. Et ça fait partie aussi de... Enfin, c'est une part intégrante aujourd'hui de vos missions quotidiennes.
Oui, c'est important. C'est vrai qu'on a souvent l'occasion de rencontrer les infirmiers et les infirmières, parce que régulièrement, on les rencontre dans le local de l'officine, un petit peu moins les autres professionnels de santé, mais par rapport aux échanges qu'on peut avoir avec eux, c'est vrai qu'on est en contact assez régulier. C'est des échanges qui ne sont pas tout le temps faciles, hein, pour de multiples raisons, rien que la disponibilité, aussi bien la nôtre que celle des autres professionnels de santé. Ça nécessite, à mon sens, de mettre en place des plateformes de communication dont on parlait tout à l'heure, sécurisées évidemment, mais aussi facilitées avec des systèmes, pourquoi pas, type chat ou équivalent, qui permettent d'éviter de déranger le professionnel de santé pendant ses consultations, tout en permettant quand même une réponse relativement rapide à une problématique qu'on pourrait avoir.
Et pas non plus avoir à encombrer le secrétariat ou l'accueil par un appel qui fait retarder tous les autres appels aussi, peut-être.
Exactement, ouais, c'est tout à fait vrai. Il faut bien voir, hein, que chaque professionnel de santé a une organisation qui lui est propre et que ces organisations ne vont pas forcément... Enfin, ne coïncident pas forcément les unes avec les autres. Donc, il y a une nécessité de s'adapter les uns et les autres pour arriver à communiquer du mieux possible.
C'était un beau résumé de cette émission. Si vous avez manqué le début, ayez le réflexe podcast que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Calade. Vous pouvez également nous retrouver encore une fois sur les réseaux sociaux ou sur le site de la CPTS Beaujolais-Dombes. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. C'était très appréciable parce qu'on a, je crois, appris beaucoup de choses. Nous-mêmes, en tant que professionnels de santé, on a appris pas mal de choses. J'en profite pour dire que nous sommes avant tout des professionnels de santé. Nous ne sommes pas du tout du monde de la radio. Donc, nous faisons ce qu'on peut du mieux que nous puissions faire. Nous vous remercions de votre indulgence. Comme d'habitude, on va se retrouver... pas le mois prochain.
Non, pas comme d'habitude.
Voilà. Ah ouais.
La boulette.
Donc, dans deux mois, alors.
À peu près.
Bon, on a une idée du thème de l'émission ou pas, Marie?
C'est encore un peu flou à cette heure-ci.
Ça va beaucoup aider nos auditeurs, tout ça.
Mais ça sera très intéressant, comme d'habitude.
Après l'été. Voilà. Donc, rendez-vous, même heure, même endroit, plus tard.
À la rentrée.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Santé Beaujolais d'Ombes, l'émission de santé du territoire.
Santé Beaujolais d'Ombes.
Galade.